Vous écoutez France Musique.
Patricia Petitbon, bonjour.
Bonjour.
Thank you. Alors, on a commencé par vous entendre, Patricia Petitbon, dans ces horizons chimériques qui vous sont consacrés, comme toute la journée, hein, bien sûr, sur France Musique. On va parler des goûts que vous avez, mais on a commencé par vous. Mon premier souvenir de vous, c'était en 94 à Beaune. On vous écoutait dans Yomelli Armida, Abandonata, un grand souvenir, ça aussi?
Oui, ça remonte très très loin. En fait, c'est vraiment mes débuts. C'est Christophe Rousset, bien sûr.
Oui. Et les talents lyriques.
Voilà, les talents lyriques. Alors, c'est drôle parce qu'il y a une anecdote assez cocasse, c'est que j'ai rencontré Christophe Rousset au Conservatoire de Paris, mais parce que j'étais à l'époque assez curieuse du répertoire baroque, et je me suis dit, bah tiens, tout le monde me disait, va dans la classe de Christophe Rousset. Donc j'attendais dans le couloir, puis au bout d'un moment, j'ai dit, mais enfin, il est où? Et je tape à la porte, et il faisait tellement jeune, voyez, il était tellement jeune aussi, j'ai cru que c'était un étudiant. J'ai dit, je suis bien dans la classe de Christophe Rousset. Un grand sourire, insolent, il me dit, c'est moi. Et voilà, et j'ai passé beaucoup de temps dans sa classe avec beaucoup d'élèves clavecinistes. Et par la suite, donc, j'ai fait un concert, on a fait ce Niccolo Iomelli, Armida Abbandonata.
Alors, on est passé sans transition à Mozart, mais enfin, il y a une transition musicale. Hein. Iomeli, Mozart, ils se connaissaient, si on peut dire. Et c'était ici, sans transition, le chœur et l'orchestre de l'ORTF, un autre style, hein, dirigé par Joseph Cripps. L'Ave Verum de Mozart, enregistré en décembre 1965. C'est une œuvre que vous aimez bien. Alors, vous me parliez d'Iomeli tout à l'heure. L'air que l'on entendait, c'était l'arte et l'ingenios. C'est un petit peu ce qui vous caractérise. Mais moi, je voudrais revenir à tout ça. Comment est-ce que vous êtes parti dans la carrière du chant? Avec quelle marque musicale et quelle empreinte d'interprète?
Je pense que le chant, c'est un révélateur de ce que l'on est. C'est un instrument très particulier. C'est un instrument où vous êtes vraiment à nu. Donc c'est une recherche à la fois, je dirais, intérieure, extérieure. Au départ, on ne connaît pas forcément beaucoup d'interprètes, vous voyez, quand on est tout jeune, quand on a 15 ans. Mais j'ai beaucoup écouté quand même de compositeurs comme Erik Satie, comme Mozart, comme Beethoven, parce que j'étais entrée très jeune à l'école de musique. À 4 ans, j'avais demandé à mes parents de faire du piano. Ben, je pense que très tôt, j'ai compris que l'art et la musique étaient un moyen exceptionnel, je dirais, d'échapper aux choses si absurdes de la vie.
Nocturne numéro 17 en si majeur, c'est pas forcément un des plus joués de Frédéric Chopin, l'opus 62 numéro 1 par Rubinstein. Il y a une émotion, qu'est-ce qui ici vous prend, c'est le chant, la ligne de chant ou l'émotion ou tout à la fois.
C'est tout, c'est ce qu'il dégage cet homme. Quand j'étais enfant et que je voyais le portrait de Rubinstein, j'étais fascinée par son espièglerie, sa profondeur, sa tendresse. Voyez, on sentait que c'était un homme qui aimait la vie, qui avait quelque chose de profond à raconter. Et c'est vrai que on ressent ces choses-là quand on est enfant et quand on fait du piano. Donc j'avais tout le Chopin. J'écoutais Chopin par Rubinstein. Voilà, c'était le grand maître chez moi.
Thank you.
Là, Patricia Petitbon, on a changé d'univers, de Chopin par Rubinstein. Nous sommes passés du côté d'Alfred Brendel, Beethoven, le final de la pastorale, enfin la sonate, hein, pastorale, pas la symphonie. Et vous nous disiez votre amour du piano. Vous avez commencé au piano avant de chanter ou vous chantiez en même temps que vous jouiez du piano?
Oh, certainement les deux en même temps. J'ai toujours chanté hein, en étant enfant, mais bon, voilà, je voulais connaître la joie de l'instrument.
Et alors donc, là, Brendel, c'est votre choix?
Oui, c'est mon choix parce que Brendel, je l'ai connu aussi enfant. Par les enregistrements et c'était, il me faisait peur quoi, c'était terrible.
Ah oui.
Ah, terrible, terrible. Alors c'est drôle parce que vous voyez, c'est des personnages comme Nicolas Harnoncourt, Alfred Brendel, ils ont des visages tellement c'est un visage sculptural, vous voyez, avec des yeux très profonds, des expressions très fortes, avec des rides très marquées, et en fait ce sont des hommes absolument sont des crèmes, quoi. Parce que j'ai rencontré Alfred Brendel il y a 2 ans, tout à fait par hasard. C'est un homme extrêmement timide, extrêmement courtois, très réservé. Nicolas Harnoncourt, on l'a toujours aussi vu avec ses pochettes très rudes. On se dit, mais il doit être très sévère. Mais pas du tout, c'est le plus gentil chef d'orchestre. Et donc, quand j'étais enfant, j'écoutais toutes les sonates de Beethoven par Brendel.
Et vous n'écoutiez pas que cela, visiblement.
Thank you.
Callas, ça vous dit quelque chose, Maria Callas?
Ah bah, oui, ça pour une chanteuse, c'est carrément, je dirais, c'est un mythe, mais c'est autre chose. C'est une destinée, c'est quelqu'un qui a traversé à la fois quelque chose de très complexe intérieurement dans la recherche du chant et vers l'extérieur, parce que ce qu'elle communique est absolument incroyable. Il n'y a pas de description, c'est la perfection et l'imperfection, vous voyez, ce mélange de sauvagerie et de délicatesse. C'est un être absolument incroyable par son charisme et par la force de son chant. Donc on ne peut pas échapper à Callas. Et là encore, j'ai beaucoup écouté Callas adolescente, forcément, parce que j'étais fascinée, même en écoutant, en baissant le son de la télévision, vous voyez, je voyais ce corps se mouvoir sur scène avec tellement de force que ça pose question.
Là, les questions étaient dans Les Puritains, hein, l'air d'Elvire de l'acte 2, et j'avais choisi l'Orchestre de la Rai de Turin, dirigé par Arturo Basile, extrait du premier CD, enfin enregistrement, je devrais dire, de Callas en 1949. C'est pas du tout votre répertoire, Patricia Petitbon, hein, le répertoire de Callas, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, et celui de Régine Crespin, c'est votre répertoire, c'est votre univers, parce que là aussi, c'est comme tout.
Alors ça dépend, parce que vous me dites c'est pas mon répertoire. Par exemple, Callas a chanté Gilda.
Elle a chanté Gluck.
Voilà, je peux quand même avoir des.
Je pensais à la Callas.
Oui, tout à fait. Évidemment, parce que la voix est énorme, la voix de Callas.
On ne s'en lasse pas. Hein. L'île inconnue, les nuits d'été de Berlioz, Régine Crespin, l'orchestre de la Suisse romande, Ernest Ansermet. C'est toujours dans vos choix, Patricia Petitbon, vos horizons, hein, dans nos horizons chimériques de la journée qui vous est consacrée sur France Musique. Patricia Petitbon, là, Régine Crespin et Berlioz, que vous aimez.
Oui, je vais en chanter bientôt du Berlioz. Régine Crespin, c'est quand même notre chanteuse française qui en a beaucoup bavé quand même à l'époque. Il faut quand même le dire, c'est ça qui est incroyable quand même. Une de nos plus singulières artistes. Ça pose question là aussi de se dire une personnalité hors du commun qui a fait beaucoup de choses, hein, qui est allée à l'étranger, qui a une carrière... qui a travaillé avec Karajan, avec tout le monde. Et dans son propre pays, un peu, un petit peu bousculé. Hein. Donc, j'ai beaucoup d'admiration pour cette femme que j'ai rencontrée aussi. On a un petit point commun parce qu'on est nés le même jour.
Ah.
Et nos grands-mères étaient de la même région. Et c'est une chanteuse qui m'accompagne dans ma vie.
Régine Crespin, l'air de Cassandre du premier acte des Troyens de Berlioz avec l'Orchestre National de l'Opéra de Paris, dirigé par Georges Prêtre. On est toujours avec vous dans nos horizons chimériques sur France Musique, Patricia Potibon, pour cette journée qui vous est consacrée. Et alors, il y a une voix d'homme aussi qui a compté, José Vandamme.
Ah oui, beaucoup. Ah oui, José Vandamme, c'est un homme qui m'a vraiment fascinée en tant qu'artiste. Puis je l'ai rencontré, puis j'ai chanté à ses côtés. Et oui, c'est un homme, voilà. Vous savez, des fois on rencontre des personnes et on a beaucoup de tendresse pour eux. Ils restent dans votre vie parce qu'ils vous ont apporté tellement en les écoutant et puis aussi en partageant des moments de vie très très simples. Mais cet homme, un jour... On chante un opéra ensemble et j'avais très peur, c'était à mes débuts. Il me dit mais pourquoi tu as peur comme ça? Je dis je ne sais pas, j'ai peur. Il me dit écoute, tu sais, il faut te dire une chose quand tu montes sur scène, personne n'est à ta place et personne ne peut faire ce que tu peux faire. Et je me dis toujours cette phrase avant de monter sur scène. Je pense à José. C'est une nature, je dirais, avec beaucoup de simplicité et c'est avec une grande noblesse aussi. On le voit hein, dans son golo, il y a quelque chose qui est une évidence, quoi. C'est la beauté même, quoi.
Et vous avez choisi de nous le faire entendre dans une sublime mélodie de forêt, hein, Les Berceaux, avec Jean-Philippe Collard. Merci Patricia Petitbon d'être venue dans nos horizons. On va refermer ces horizons avec vous justement. Hein. La Passion du Christ, c'était Antonio Caldara, c'était en 1998 avec Fabio Biondi. L'air de Madeleine, oh ça fait pleurer. Enfin moi j'écoute ça, je
pleure. Ça fait longtemps surtout.
Merci à vous. Thank you. même dit Patricia Petitbon, l'art est une espérance. Ici, c'était extrait de La Passion du Christ, c'est l'air de Madeleine, signé Antonio Caldara. Patricia Petitbon, avec Europa Galante et Fabio Biondi. Merci à l'équipe d'aujourd'hui, José Bernès, Bastien Varigo, Jean-Paul Lafavergès et Elisabeth Gornet, ainsi qu'Anna Cassery et Sylvain Richard. Il va être 16h55. Vous la retrouvez dans quelques instants, Patricia, mais pour l'instant, c'est l'heure d'À la brevée d'Anne Montaron.